Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Virginia Crespo.
Monsieur Gabriel de Breuil, chancelier de l'Institut de France, et Madame Hélène Carrère-Nanco, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, se sont rendus en Haïti du 5 au 8 septembre 2012 pour visiter les programmes de Bibliothèques sans frontières, la BSF, mis en œuvre tout de suite après le terrible séisme survenu en Haïti en 2010, il y a donc 2 ans. Donc, un programme mis en œuvre dans le cadre du Grand Prix culturel de la Fondation Louis D, remis à cette association, la BSF. Canal Académie vous invite maintenant, au cours de cette émission, d'en savoir plus sur cette opération en compagnie de l'un des acteurs essentiels de cette action, Monsieur Gabriel de Breuil, chancelier de l'Institut de France. Monsieur le chancelier, bonjour.
Bonjour.
Alors, cette aide s'est effectuée, pourrait-on dire, sous forme d'un partenariat entre l'Institut français en Haïti, le ministère des Affaires étrangères, l'Institut de France que vous représentez, Bibliothèques sans frontières, une ONG, je crois, et la Fondation Louis D. Le prix de cette Fondation Louis D. Expliquez-nous, monsieur de Breuil.
Alors, la Fondation Louis D est une fondation abritée à l'Institut de France. Les fondateurs sont si discrets qu'ils n'ont pas voulu donner leur nom à cette fondation et que Louis D, c'est D majuscule point, et on ne veulent pas que leur nom soit prononcé. C'est cependant une fondation admirable qui décerne chaque année des prix très importants. Et en 2010, le Grand Prix culturel a été décerné par un jury présidé par Madame Hélène Carrère-Nanco, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, m'accompagnait dans ce voyage en qualité de présidente du jury. Et donc, ayant choisi ce très bon lauréat de se porter au secours des bibliothèques d'Haïti. C'est un prix considérable, 750 000 euros, qui a été décerné. Le lauréat lui-même était une organisation, en effet, ONG, reconnue, dont le siège est à Paris, mais qui intervient dans plusieurs pays dans le monde et qui est extrêmement efficace et extrêmement bien gérée, et dont la qualité, là, à Haïti, a été de réussir à assurer la collaboration des autorités locales pour faire quelque chose, à la fois quelque chose très vite et en même temps quelque chose d'un peu fonctionnel, pas uniquement de porter secours, pas uniquement des villages de toile ou des vivres ou des médicaments. Et donc, l'ONG Bibliothèques sans frontières s'est mise en relation avec les autorités haïtiennes de manière extrêmement efficace, est apparu comme un partenaire tout à fait fiable et confiant aux autorités haïtiennes, avec bien entendu le concours de l'ambassade de France, qui a été essentiel dans cette affaire, mais pas agissant, n'est-ce pas? L'ONG, c'est elle qui avait l'argent d'abord.
Et le pouvoir exécutif.
Et c'est elle qui a agi. Alors, il s'est agi de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a eu un programme, et dans ce programme, une sorte de paquet fonctionnel a été proposé par BSF, consistant à dire, il faut remettre debout la Bibliothèque nationale d'Haïti, il faut encourager et rétablir la bibliothèque du ministère des Affaires étrangères, je dirai un instant pourquoi, et il faut restaurer aussi la bibliothèque de l'Université d'État d'Haïti, qui est la principale université publique d'État à Port-au-Prince. Voilà les trois caps de notre... Alors, pour la Bibliothèque nationale, les choses ont été un peu différentes selon le cas. Pour la Bibliothèque nationale, nous avons contribué à construire de nouveaux bâtiments, légers, pas du tout des grands monuments, n'est-ce pas, des choses légères, métalliques, pour conserver des livres, dans lesquels ont été mis ce qu'il reste de l'ancienne Bibliothèque nationale d'Haïti, c'est-à-dire très peu, et dans lesquels l'ONG a obtenu des concours nombreux venant de France pour envoyer des livres. Et la Bibliothèque nationale de France, l'École normale supérieure, des universités, l'Institut a contribué à envoyer des livres, des caisses, des cartons de livres, des caisses de livres, qui fait un fonds de la Bibliothèque nationale d'Haïti. Alors, je dois vous dire que nous avons dévoilé une plaque, là, mais que c'est loin d'être terminé. et que, notamment, tous les livres envoyés ne sont pas sur les rayons catalogués. Non, c'est là une chose vraiment naissante et que nous avons aidé à naître. Les choses en sont là. Quant à la Bibliothèque des Affaires étrangères, pourquoi ? Eh bien, c'est parce que, en réalité, c'est la bibliothèque du droit et de l'histoire diplomatique, mais de l'histoire, en réalité, en Haïti. C'est une bibliothèque importante qui joue un rôle de bibliothèque universitaire et de recherche dans le domaine du droit et de l'histoire diplomatique en particulier. Et donc, elle est plus importante que son nom l'indique, du point de vue de la connaissance, et elle méritait d'être rétablie, et la même chose, nous avons contribué à rétablir une bibliothèque des affaires étrangères. Ses collections étaient mieux préservées, ont mieux survécu, et elle est en fonctionnement. Nous avons, là aussi, dévoilé une plaque. Enfin, à la bibliothèque universitaire, l'Université d'État d'Haïti. Alors, c'est là que nous avons concentré notre effort. Et c'est là que nous avons un peu changé l'orientation. La bibliothèque universitaire a été détruite, en grande partie. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la Bibliothèque des Affaires étrangères, pas en totalité. Mais il est apparu à l'ONG, nous avons approuvé, parce que la fondation de l'Institut a constamment suivi cette affaire et a donné son approbation aux inflexions. Et donc, on n'allait pas reconstruire exactement la bibliothèque de l'Université d'État toute seule. Il y a, à Port-au-Prince et en Haïti, une quinzaine d'universités. Donc, ce pays, n'est-ce pas, qui est très pauvre et dont 90% de la population n'est pas formée à la, disons, au niveau secondaire, peut-être un enseignement primaire et très, très primaire, ce pays a 15 universités. Ça veut dire une ancienneté et un souvenir de société lettrée très important. Ça veut dire aussi un pays qui a une structure d'État, une université d'État, et des universités privées qui sont soit des congrégations catholiques, soit des missions protestantes, qui elles-mêmes se font un peu de concurrence auprès de la population. Et donc, fallait-il que nous limitions notre action à la seule université d'État de Port-au-Prince ? Il y a d'autres universités spécialisées dans d'autres disciplines, elles sont moins importantes. Nous avons pensé qu'il fallait en effet se porter au secours des victimes du séisme et essayer de rétablir les choses, mais qu'en même temps, on pouvait investir dans une formule un peu plus neuve, moderne. Et nous avons donc concentré l'effort sur une mise en réseau informatique des bibliothèques, des universités d'Haïti, et dans la région de Port-au-Prince, pas celles qui sont lointaines, mais dans la région de Port-au-Prince, de manière à ce qu'elles puissent bénéficier toutes des services unifiés d'une bibliothèque centrale. Et nous avons entièrement pris sous notre financement, enfin notre apport, une institution originale qui s'appelle la Réserve Universitaire Centrale des Universités Haïtiennes. Et si on écoute bien, les promoteurs de cette idée ont baptisé le projet RUCH, la Réserve Universitaire Centrale. Assez bien dénommé, d'ailleurs, ils ont retenu le logo d'un losange qui représente, n'est-ce pas, une alvéole d'une ruche, de la couleur, du miel, et voilà.
Un joli symbole.
Le symbole était assez joli, il est à utiliser et à poursuivre, et voilà, espérons que les étudiants, les professeurs, les chercheurs...
Se nourrissent de bon miel.
Feront leur miel de ce que nous avons fait. Alors, nous avons inauguré La ruche, avec aussi une plaque. C'est l'occasion de dire que nous avons été extrêmement bien reçus. Le recteur de l'Université d'État d'Haïti était présent. Nous avons rencontré le ministre des Affaires étrangères, à la bibliothèque du ministère des Affaires étrangères, d'autres ministres, et nous avons été reçus en audience par le président de la République d'Haïti, dans sa résidence effondrée, car il y avait un palais national, Haïti, qui a été complètement ébranlé et effondré, et la présidence est située dans un bâtiment provisoire où nous avons été reçus, mais de manière très touchante. Et vraiment, ce mécénat, cette intervention a été accueillie de manière extraordinairement efficace et heureuse grâce à l'action de Bibliothèques sans frontières. Les difficultés ne sont pas minces parce que, dans tous les cas, il a fallu résoudre des problèmes fonciers. Or, résoudre un problème foncier à Port-au-Prince actuellement, c'est quasiment impossible. Les terrains, le cadastre, enfin, tout ça Et donc, il fallait s'assurer de simplement la disponibilité des lieux où c'était possible et obtenir l'accord des autorités. Cela a été fait par Bibliothèques sans frontières. Et de l'avis de tous, le résultat de cette action, en deux ans tout de même, mais en deux ans, est une performance remarquable. Alors, nous avions pris la précaution que ce prix de 750 000 euros, on ne le décerne pas comme ça en faisant un chèque. Hein. Non, il a été débloqué par tranche. Et au fur et à mesure du progrès des travaux, et la dernière tranche avait été débloquée en avril 2012, et nous sommes venus, quelques mois après, constater les résultats. C'était une expérience vraiment très intéressante.
Monsieur le chancelier, une question de fond, une question essentielle. Malgré la misère, la culture redonne espoir, la culture fait revivre quelque part.
Alors, c'est ça qui est très enrichissant dans la découverte d'Haïti, c'est que c'est une société cultivée. Et n'insistons pas sur les problèmes sociaux, ils sont criants. L'immense majorité de la population est dans un état de dénuement effrayant. Mais il y a une verve, une fibre littéraire et historique. Il y a une verve poétique évidente. Il y a un talent pour les arts plastiques absolument remarquable. Il y a une école de peinture haïtienne qu'on appelle la peinture du soleil, qui a son succès, qui a ses peintres, ses bons peintres, et qui sont connus aux États-Unis d'Amérique, qui vendent. Et non seulement ça, mais il y a des peintres des rues, dans les rues effondrées avec des immeubles en ruine et des tas de gravats le long des trottoirs encore, tout n'est pas déblayé, eh bien, il y a des expositions de tableaux partout. Et du soleil, en effet. Et donc, Haïti, de ce point de vue, est extrêmement attachant, ne parlons pas de la musique. La musique, c'est le folklore des Antilles, bien entendu, mais tout à fait cultivé, connu, enrichi encore. Et donc, le pays, aussi déshérité qu'il soit, a en effet une ouverture. L'ouverture est là, à la culture, aux différentes cultures. Peut-être faudra-t-il revenir un peu sur la différence des cultures, parce que Haïti est aussi un peu un carrefour de différentes influences, et cela pose tout le problème de la place du français, de la langue française, dans ce pays qui est si déshérité, enfin qui a été si victime des circonstances, non seulement des circonstances physiques, mais il faut dire que l'histoire politique d'Haïti n'a pas arrangé les choses, et que le pays sortait d'une dictature de, je crois, à plus de 30 ans, et que...
Fratricide et qui...
Épouvantable, épouvantable, n'est-ce pas? Donc, il en était sorti, le pays en était sorti. Et donc, c'est un État qui se reconstruit, qui tente à se reconstruire avec beaucoup de difficultés, mais qui se reconstruit maintenant, et qui a été frappé ainsi par le destin. Donc, cela mérite vraiment beaucoup d'attention, et nous avons essayé de nous porter au secours.
La francophonie, la langue française en Haïti, ce sera... ce que nous évoquerons ensemble au cours d'une troisième émission de cette série Point de mire. Monsieur le chancelier, vous ne nous avez pas encore dit que vous aviez été séduit par les bibliotap-tap. Est-ce que vous avez pris un tap-tap là-bas? Racontez-nous.
Oh, c'est une très jolie réalisation, aussi de Bibliothèques sans frontières.
Oui, tout à fait.
Et financée par nous. Le bibliotap-tap, tap-tap, c'est le nom des taxis. Alors, le bibliotap-tap, ce sont des véhicules peints, bariolés, très amusants à regarder, qui sont utilisés par Bibliothèques sans frontières pour porter dans des zones déshéritées de Port-au-Prince des bibliothèques mobiles et les mettre à la disposition des lecteurs dans les quartiers. Alors, il y a, je crois, 5 bibliotap-tap, pas mal.
Et qui circulent dans toute
l'île. Qui circulent. Alors, le bibliotap-tap arrive avec un chauffeur et puis une démonstratrice qui fait un très bel exposé, très bon exposé, qui organise des séances de lecture, de contes, de manière absolument ravissante, et qui est entourée de, dès qu'elle arrive dans un endroit, le bibliotap-tap est annoncé, la population se rassemble, les enfants accourent, et cette animatrice fait un succès, pratiquement la journée entière, ou en tout cas au moins la demi-journée, à non seulement proposer ses livres, mais expliquer ce que c'est qu'un livre et expliquer aux enfants ce qu'on trouve dans les livres. Et la meilleure manière, c'est de réciter des contes aux enfants. Elle le fait très bien. Ils comprennent, ils sont enthousiastes et ça leur ouvre l'esprit et ça les familiarise avec ce que c'est qu'un livre et la lecture.
C'est magnifique comme initiative.
C'est une très belle initiative.
Au-delà du livre, comme vous le dites, il y a aussi l'échange,
ouais,
et la rencontre, la communication d'informations.
Absolument.
Et de l'imaginaire, puisqu'il s'agit de contes.
Oui, oui.
Monsieur le chancelier, merci pour ce deuxième témoignage. Thank you.